Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous ai promis une troisième réflexion, j'allais dire une troisième méditation, sur le monde et nos rapports avec le monde. Nous la ferons avec saint Ignace. Dans ses exercices spirituels, il a une méditation, qui est même une contemplation, qu'il intitule « Les deux étendards », l'étendard du démon d'un côté et l'étendard de Jésus-Christ de l'autre. Premier tableau, saint Ignace nous montre le démon qui envoie tous ses démons collaborateurs dans le monde entier, dans toutes les villes et auprès de toutes les personnes. Et il tâche de communiquer à ces personnes son propre esprit. Comment y arrive-t-il? Notre but n'est pas de décrire tout d'abord quel est l'esprit du démon, parce que nous parlons du monde. Et le démon se sert du monde et il entre dans le monde. Premièrement, il leur commande, à tous ses collaborateurs, d'attirer les hommes à l'amour des richesses. Lorsqu'ils ont l'amour des richesses, il les mène à la vanité. De la vanité, il les mène à l'orgueil, et de l'orgueil à tous les autres vices. Il y a donc trois étapes. À partir de la troisième, on tombe dans tous les vices. Premièrement, l'amour des richesses. Faites bien attention que, à l'époque de saint Ignace, il fallait être riche pour avoir des richesses. Maintenant, le démon et le monde ont fait des progrès. Il y a des richesses à deux sous. Les jours de solde sont pleins de biens matériels qui sont soldés, bradés. Les soldes nous montrent à quel point la possession des biens matériels attire les hommes. Pourquoi cette possession est-elle mauvaise et comment attire-t-elle? C'est la concupiscence des yeux. Et pourquoi est-elle mauvaise? Tout d'abord parce que elle flatte les sens, elle diminue la vigueur intérieure, elle donne une mollesse, mais surtout, elle est un prélude presque immédiat à la vanité. On pourrait presque dire que dans le monde, le désir des biens matériels se fait déjà par vanité. Et c'est la gravité des biens matériels, de la richesse, ce que saint Ignace appelle la richesse, mais qui aujourd'hui a été mise à la portée de tout le monde. Sa gravité, c'est qu'elle mène à la vanité. Vous le voyez chez un enfant, un jeune, un adolescent. Chez les adolescents, c'est très net parce que ils ont encore tous les vices, toutes les concupiscences plutôt, et qui ne sont pas toujours bien maîtrisés, surtout de nos jours où ils n'ont pas été bien élevés dans l'enfance, et ils n'ont pas encore appris à cacher leurs défauts. Les adultes, soit se sont corrigés, soit ont appris à cacher leurs défauts. Un enfant veut posséder, un adolescent veut posséder. Il lui faut le dernier truc à la mode, il lui faut les dernières musiques, il lui faut toutes les choses qui se voient. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il veut posséder, ce n'est pas tellement pour jouir à son aise que déjà par vanité. Un peu pour jouir à son aise, mais surtout par vanité. C'est-à-dire pour briller, auprès des amis ou des copains. Quand on en est à la vanité, l'étape suivante, c'est très net chez un adolescent, c'est de considérer comme nul, je prends leur langage, tout ce qui ne va pas dans leur sens. Les parents sont des nuls, les professeurs sont des nuls, enfin tout ce qui ne va pas dans leur sens est méprisé. Et ça, c'est l'orgueil. Le passage se fait donc très vite. Chez les adultes, la démarche est la même, le démon pousse à la même démarche, qui est une démarche de vanité. Alors il y a dans la possession des biens beaucoup d'aise, on veut profiter des vacances, il y a ce qu'on estime être une qualité de vie, mais qui est une qualité purement matérielle. Et ces aises poussent également très vite à la vanité. On aurait honte de ne pas avoir ce que le voisin possède. Et les richesses plus la vanité donnent un sentiment d'indépendance, et l'indépendance, c'est l'orgueil. L'orgueil consiste à se croire au-dessus des lois, au-dessus des nécessités, au-dessus des autres, ne pas être assujetti. C'est ça l'orgueil. Et vous remarquerez que saint Ignace n'a pas parlé du vice de l'impureté. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, l'impureté est une conséquence. Je sais, il peut y avoir de l'impureté chez les adolescents qui ne soient pas par orgueil, par vanité, mais la plupart du temps, l'impureté vient de la vanité, parce que on aurait honte de passer pour une oie blanche. L'impureté vient souvent de l'orgueil. Les adultes sont bien gentils, mais quand ils donnent des conseils, des avis, ils n'y connaissent rien. Voilà ce que pensent beaucoup de jeunes. Et la même chose, alors chez les adultes, hélas, 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 il y a une impureté visible, l'adultère, le divorce, le concubinage et tout cela, et puis il y a une impureté cachée, dans la triche dans le mariage, mais qui est une conséquence. Parce que la vanité et l'orgueil ont aveuglé. C'est ce qui est dans l'Écriture sainte, dans la Genèse. Lorsque Adam et Ève se furent révoltés contre Dieu, ils virent qu'ils étaient nus. Ils étaient déjà nus avant, mais cela ne les gênait pas, parce qu'il n'y avait pas de concupiscence. À partir de la révolte, la chair se révolte à son tour. Saint Augustin dit que lorsque l'esprit n'est pas soumis à Dieu, il ne peut pas soumettre la chair à soi-même. Saint Ignace passe ensuite au deuxième tableau, qui est Jésus-Christ qui envoie ses apôtres et ses disciples. Saint Ignace est très clair. Il n'y a pas que les apôtres, que les prêtres, que les évêques. Il y a les disciples. Et il les envoie en leur donnant un programme. Le programme de Jésus-Christ, c'est tout d'abord de les attirer à la pauvreté spirituelle. De là, il les attire aux opprobres. De là, à l'humilité. Et de là viennent toutes les vertus. Reprenons cela par partie. Tout d'abord, la pauvreté spirituelle. Ne croyez pas, mes bien chers frères, que puisqu'il s'agit de pauvreté spirituelle, on peut mépriser la pauvreté réelle. C'est vrai que on peut avoir la pauvreté spirituelle dans la richesse réelle, mais c'est très difficile. C'est très dangereux. Pourquoi j'insiste malgré tout sur le fait que cette pauvreté est spirituelle? Parce que dans le royaume de Dieu, tout est spirituel. Non pas qu'on néglige les moyens matériels, mais les moyens matériels ont pour but de donner quelque chose de spirituel. vous avez des pauvres matériels qui ne sont pas pauvres spirituels parce qu'ils désirent les richesses. Et vous avez des riches, même si c'est très difficile, des riches réels qui ont la pauvreté spirituelle parce qu'ils ne s'attachent pas aux richesses. Ce qui est absolument nécessaire, indispensable, c'est le détachement des biens de ce monde. De là va naître l'amour des opprobres. Parce que dès qu'on n'a pas les biens de ce monde, on tranche sur le monde commence à nous reprocher de ne pas favoriser ses vices, et il faut que je m'étende un peu sur l'amour des opprobres, parce que nous sommes là à la clé qui ouvre la porte. L'opprobre, c'est le contraire de la probité. La probité, c'est l'honnêteté, c'est l'honneur. Lorsque vous avez une famille probe, c'est-à-dire honnête, vous savez que vous pouvez traiter avec n'importe lequel des membres de la famille parce que la probité rejaillit sur chacun des membres. Lorsque un des membres de la famille tombe dans des vices graves, devient un bandit, un voleur, peu importe, un escroc, à ce moment-là, cela jette l'opprobre, c'est-à-dire le contraire de la probité, opprobre, l'opposé à la probité. Cela jette l'opprobre sur toute la famille, c'est-à-dire le déshonneur. Vous allez me dire, mais comment Jésus-Christ peut-il nous demander l'amour des opprobres ? Nous allons y venir. Lorsqu'il s'agit du monde, ce qui est sujet d'honneur pour le monde est sujet de mépris pour nous. Et ce qui est sujet de mépris pour le monde est sujet d'honneur pour nous. Le monde méprise la pauvreté et nous la tenons à honneur. Le monde méprise l'honnêteté et pour nous, elle est honorable. Le monde méprise ceux qui ne vivent pas comme lui et nous, nous sommes fiers de vivre comme Jésus-Christ et non pas comme le monde. Ce qui fait que le monde va nous jeter à la figure comme un opprobre ceux dont nous sommes fiers. Là, vous avez une liste, une petite litanie. Le monde nous reproche, par exemple, d'être coincés. Pourquoi coincés ? Parce que nous ne cherchons pas à être indépendants, à être libres, comme il dit, à faire ce que nous voulons. Le monde nous reproche d'être durs. Pourquoi ? Parce que nous suivons une loi. Il nous reproche de lui faire des reproches, de le juger. Il nous reproche d'être sans charité, sans âme. Il va reprocher aux jeunes leur chasteté, etc., etc., etc. On va traiter le jeune de cassos, cassocial, etc. Eh bien, cela, nous devons en être fiers. Parce que c'est la preuve de notre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'aimer les opprobres pour les opprobres. Il ne s'agit pas d'aller faire le fou pour que le monde se moque de nous. Quelques saints l'ont fait, mais ils sont des exceptions. Les saints n'ont pas cherché à être fous pour qu'on se moque d'eux. Ils ont cherché à avoir la sagesse de Dieu. Et le monde qui est fou se moque de la sagesse de Dieu. De là vient l'humilité, c'est-à-dire que quand on accepte les opprobres, on se soumet à Jésus-Christ, on entre dans les vues de Jésus-Christ. On entre dans ses vues et on se soumet à lui. Et c'est cela l'humilité. Alors faites bien attention, parce que le monde a déformé la notion d'humilité. Le monde veut nous faire croire que l'humilité, c'est d'aimer être écrasé. Pas du tout, c'est pas ça. L'humilité est une soumission à Dieu. Et l'orgueil est de chercher à échapper à Dieu. L'humilité est une soumission à Dieu, donc une soumission à la loi de Dieu, une soumission aux autorités qui dépendent de Dieu, une soumission à la providence, une soumission à la charité. L'humilité est très liée à la charité. L'humilité qui fait que par charité, on se penche vers les humbles, les petits, les pauvres, les ignorés, les malades, et que sais-je. L'humilité est très liée à la charité, très liée à la foi aussi. Et de là viennent toutes les vertus. C'est-à-dire que celui qui est humble acquiert toutes les vertus. Et il y a un sermon de Saint Bernard, je crois, qui compare l'orgueilleux chaste et l'impur qui serait humble. Et il dit, l'orgueil souille la chasteté dans le premier cas. Quant à l'impur qui est humble et qui cultive l'humilité, l'humilité va purifier son manque de chasteté et il va devenir chaste. Pas question évidemment de dire que quelqu'un qui manque à la chasteté, sous prétexte qu'il est humble, vit dans l'amitié de Dieu. Mais l'humilité va purifier son manque de chasteté et va le rendre chaste. Voilà quelle doit être notre attitude dans le monde. Nous avons fait 3 sermons pour avancer doucement et que vous compreniez bien les choses. Il ne s'agit pas de fuir physiquement le monde. Il ne s'agit pas seulement de fuir moralement le monde. Il s'agit de vivre comme Jésus-Christ dans le monde et d'accepter que le monde nous jette ça comme un opprobre à la figure, d'accepter d'être des signes de contradiction comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela va plus loin, de communiquer cet esprit au monde. Parce que les 2 étendards sont des étendards pour recruter une armée. Le démon recrute son armée et il recrute non seulement en prenant des hommes dans ses troupes, mais surtout en leur communiquant son esprit, qui est un esprit de richesse, un esprit de vanité, un esprit d'orgueil, un esprit de révolte et un esprit de tous les vices. Et Jésus-Christ envoie les apôtres qui tous ont été pauvres, amoureux des opprobres et humbles. Et ils ne font pas que recruter, ils communiquent cet esprit de Dieu. On ne peut pas être recruté dans une armée sans avoir l'esprit du chef. Et on ne peut pas être recruté dans l'armée du démon sans avoir l'esprit du démon. Et quiconque a l'esprit du démon n'a pas besoin de signer, il est recruté. De même, quiconque a l'esprit de Jésus-Christ, même s'il n'a pas signé, il est recruté dans l'armée de Jésus-Christ. Bien sûr, mieux vaut qu'il ait signé, qu'il se soit engagé formellement. C'est la lutte entre les 2 cités qui, aujourd'hui, arrive à un point extrême avec une apparente victoire du monde. Mais je dis une apparente victoire du monde. Pourquoi ? Parce que les richesses, la vanité, l'orgueil paraissent plus forts, mais rira bien qui rira le dernier. Dieu veut faire la preuve que la pauvreté, que l'amour des opprobres et que surtout l'humilité sont en réalité plus forts que toutes les techniques du monde moderne, toutes les masses du monde moderne, tout le nombre que le monde moderne cultive. Force physique, force du nombre. Il a fait cette preuve pendant toute l'histoire de l'Église. Mais les complices de Satan n'ont pas voulu l'admettre. Et Dieu, pour faire la preuve de sa victoire, ne s'est pas opposé à ce que des hommes tombent dans les filets de Satan. Et ces hommes croient aujourd'hui être les plus forts. Mais Dieu va montrer, il ne va pas montrer seulement que le Christ est plus fort par sa pauvreté, par son amour des opprobres et par son humilité. Il va montrer que cette pauvreté, cet amour des opprobres et cette humilité communiquée aux hommes, aux chrétiens, aux fidèles, est elle-même plus forte que le monde. La pauvreté, nous allons la contempler à Noël dans la crèche. Et nous allons voir combien cette pauvreté est riche. Ce n'est pas pour rien que la fête de Noël est une si grande fête et que tout le monde s'en rend compte. Nous allons voir également l'humilité, mais ça, l'humilité chez Jésus-Christ, on la voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque depuis l'incarnation, il fait acte d'humilité. Il se soumet à son Père. Il ne cherche pas ce qui est à lui. Il cherche uniquement l'honneur de son Père. L'amour des opprobres, cela commence dès la présentation de l'enfant Jésus au temple, lorsque le vieillard Siméon dit qu'il sera un signe de contradiction. Et plus notre Seigneur va se montrer, plus il sera l'objet de la contradiction, et plus il sera fier de son Père. Et ça, c'est de l'humilité. Les trois sont liés. Vous avez remarqué, ou vous aurez remarqué dans l'Évangile, Jésus-Christ parle tout le temps de son Père. Il est au service de son Père. Bien sûr, il rappelle que le Père et lui sont un, parce que lui est Dieu, mais le Fils de l'homme parle avec déférence de Dieu le Père. Jésus-Christ, homme, parle avec déférence de Dieu le Père. Il proclame que ce n'est pas lui qui se rend témoignage, mais que c'est le Père qui lui rendra témoignage. Ne vous faites pas d'illusions sur certains saints qui semblent avoir eu des succès sans difficulté. Je pense à saint François d'Assise, qui, dès qu'il eut fondé les franciscains, fut soutenu par le pape, soutenu par l'église, soutenu, enfin ça a été une ruée, j'allais dire un rush, des bons chrétiens vers saint François d'Assise, qui dut fonder le tiers ordre franciscain à ce moment-là. D'abord, saint François était l'objet d'opprobre avant de fonder son œuvre, même en fondant son œuvre, et puis surtout, saint François a eu l'amour des opprobres, c'est-à-dire qu'il a eu l'amour des pauvres, il a eu l'amour des humbles, il a eu l'amour de ce qui s'opposait au monde. Comme le monde était chrétien, une grande partie du monde s'est mise du côté de saint François, c'est-à-dire qu'elle s'est mise du côté de l'opprobre. À cette époque, les mauvais, les complices du démon ont reculé. N'empêche que c'était bien la pauvreté, les opprobres et l'humilité qui régnaient. Saint Vincent de Paul, c'est la même chose. Saint Vincent de Paul a été l'objet de la faveur des grands. Et on peut dire qu'il n'a pas été vraiment contredit dans son œuvre extraordinaire. Seulement, Saint Vincent de Paul s'est fait aumônier des galères. Il a fondé les prédicateurs pour les campagnes, pour les gens humbles. Il n'était présent à la cour que pour s'occuper des humbles. Bon, et des grands aussi, parce que les grands sont pauvres, ce sont des pécheurs comme les autres. Saint Louis qui était roi, on pourrait dire il a fait ce qu'il a voulu, il n'a pas eu à subir les opprobres. D'abord c'est pas vrai, tout le monde à la cour ne l'a pas compris, tout le monde ne l'a pas suivi de bon cœur à la croisade. Et puis Saint Louis, d'abord a été un roi pauvre, dans sa richesse il était très pauvre. C'était un roi qui a eu l'amour des opprobres parce que il donnait à manger de ses mains aux lépreux, par exemple, parce qu'il est allé délivrer les lieux saints et il a accepté, vous voyez, l'outrage d'être prisonnier des musulmans. Par contre, il y a des saints qui ont, alors cette fois-ci, brillé par l'amour des opprobres. Je pense à Monseigneur Lefebvre, dont l'amour des opprobres était le signe, j'allais dire, ce qui mettait en valeur son amour de Dieu. La résolution que nous devons prendre, nous devons en prendre deux. Nous devons, pour nous, vraiment avoir l'amour des opprobres, parce que c'est vraiment cela la clé. La clé ouvre la porte. Et la clé de l'amour des opprobres ouvrira la porte de l'humilité. Et lorsque la porte de l'humilité sera ouverte, toutes les vertus s'engouffreront dans notre âme. La deuxième résolution à prendre, c'est de faire aimer les opprobres. Et c'est très important, mes bien chers frères, aujourd'hui, parce que nous avons perdu la splendeur de l'Église, la splendeur de la tradition, et nous pourrions être tentés de vouloir retrouver cette splendeur, de vouloir retrouver un certain confort, peut-être pas matériel, mais malgré tout un confort dans le monde. Et nous pourrions être tentés, d'une part, de nous faire bien voir. Nous ne sommes pas si intégristes comme cela, voyez, ça pourrait être une tentation. Nous pourrions être tentés de mépriser ce monde pour nous mettre à part dans une mentalité d'homme supérieur et protégé. Eh bien non, il faut que nous ayons l'amour des opprobres et que nous le fassions partager, nous le fassions aimer. Il faut que nous partagions et fassions partager cet amour des opprobres. Il faut que nous le communiquions. Et pour le communiquer, il faut être aussi fou que saint François d'Assise, aussi fou que Monseigneur Lefebvre. Fou aux yeux de Dieu. Il a été traité de fou à Rome par les représentants du pape, et il le leur a reproché. Il a dit « Vous me traitez de fou. Moi, jamais je vous ai traité de fou. » Aussi fou que Monseigneur Lefebvre, aussi fou que saint François d'Assise, aussi fou même que saint Louis, aussi fou que tous ces héros que j'ai connus en Indochine, en Algérie, qui ont subi les opprobres pour ne pas trahir. Ces deux résolutions doivent être prises, pas seulement une seule. Je vous ai beaucoup parlé d'apostolat, mais le véritable apostolat, c'est de communiquer l'amour des opprobres. Le véritable apostolat, c'est pas d'engranger les conversions. Le véritable apostolat, que ce soit en allant dans la rue, que ce soit en allant chez les pauvres, que ce soit dans sa famille, parce qu'il y a un apostolat des parents, qui est de communiquer l'amour des opprobres à leurs enfants. Et quand une éducation, quand des éducateurs ont communiqué l'amour des opprobres, l'éducation est réussie. Et s'il n'y a pas ça, elle est ratée. Demandons à Notre-Dame, que nous allons contempler pendant tout l'Avent, de nous donner toutes ses qualités et ses vertus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.